EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Bonjour les filles,
bonjour,
ça va
mesdames.
Dans votre nouvelle vie.
Disciplinée, des objectifs clairs.
Nous ne mangeons pas de
progrès.
Biscuits. Où nous célébrons nos victoires à manger un biscuit.
Plus de chips, plus de snooze, plus rien.
Plus rien.
Une vie de progrès.
Voilà. Bravo. Ouais. Et bah, écoute, maintenant qu'on a défini des objectifs, maintenant qu'on sait comment y arriver, il y en a peut-être aussi qui sont, on est toutes en chemin. Il y a des objectifs à atteindre, il y a des choses qu'on a déjà commencé, des choses qui sont en cours, et il y a aussi des choses qu'on a déjà établies. Et puis c'est le nouveau projet, la nouvelle vision, la nouvelle saison aussi. On est dans la saison de la rentrée. Alors comment bien faire les choses? Par quoi il faudrait commencer? Qu'est-ce qui serait le mieux? Parce que la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et puis qu'elle voit la fin de la chose est pas bonne parce que le commencement a pas été génial. Et puis, ou quelle fois on mise tout sur le commencement et puis on oublie
on
que.
On sera pas à la fin.
Ouais, c'est ça, on part en sprint et puis on oublie que finalement c'était un peu long, je suis fatiguée en cours de route. Donc, c'est comment est-ce que on aborde ces nouvelles saisons, comment mettre les chances de notre côté. Et puis, on en a quand même parlé tout au long de la semaine, mais une des choses c'est autant on c'est bien d'aborder un nouveau projet, une nouvelle vision, une nouvelle saison avec de l'enthousiasme, mais pas non plus avec des illusions. Parce que quelquefois, ce surenthousiasme débordant fait qu'on va tout donner au début. Et puis ça, je pense que c'est un piège. On donne tout au début et puis en faisant l'erreur peut-être d'un objectif qui va être trop fort, trop grand, comme tu disais, je vais aller à la salle de sport, j'ai déjà pas l'habitude d'aller à la salle de sport. Mais en plus, je vais y aller en vélo. Écoute, là...
En plus, c'est une vraie
histoire. La motivation est bonne.
Ouais. Mais tu vois, là, c'est... on veut savoir la fin de l'histoire, tu vois. Donc, ce surenthousiasme.
Je veux faire tout ça, mais je commence le mois prochain.
Peut-être ça peut nous desservir. Donc, on en a un peu parlé, mais je pense que c'est important de le redire aussi. C'est de commencer de façon, avec l'énergie du début où on est capable de donner beaucoup, mais en même temps, en se rappelant, je veux pas juste vivre un début, en fait. Je veux vraiment aller jusqu'au bout. Donc, si je donne toute mon énergie maintenant, si je donne tout maintenant, ça se peut que je vais m'essouffler et que je risque de pas arriver au bout. Puis c'est ça le but en fait, c'est d'accomplir, c'est d'arriver au bout de la fin de cette saison, c'est d'arriver au bout du projet. On parlait de ton livre, le but c'est que tu le termines, mais non seulement terminer l'écriture, mais après ça il y a encore d'autres étapes. Faut sortir le livre,
la distribution, tout le graphisme, tout ça. Mais je pense que l'idée, c'est toujours moi je pense que ça, on peut arriver, comprenez-moi, on peut arriver grand, mais se fixer des objectifs qui sont réalistes. Mais je pense qu'il faut regarder, quand je planifie ma nouvelle saison, faut que ça soit quelque chose de réaliste. Tu vois, si je me dis OK, septembre, c'est la j'ai le goût de OK, c'est là que je commence, à écrire mon livre. Moi, je veux que ça sorte en décembre, déjà c'est énorme, c'est pas un gros délai. Donc je vais écrire 50 pages par mois. Bon, mais si c'est septembre, c'est la rentrée des classes, qu'il faut que tu ailles faire les courses, que tu rentres les enfants à l'école, les cours de piano, tu vois, c'est là qu'il faut prendre un pas de recul et dire, j'ai ce grand rêve-là, ou c'est une nouvelle saison, mais je fais un bilan de ma réalité aussi. Qu'est-ce que j'ai? Je garde mes priorités. Parce que le défi, souvent, c'est que quand on est tout feu, tout flamme, mais là, toutes les priorités basculent, puis là, tout peut venir désorganisé dans ta vie. Puis c'est sûr que si tes enfants écrivent à toi, après toi, parce que t'es toujours en train d'écrire, ou tu vois, la façon de t'y rendre est aussi importante que la destination. Donc, je pense que c'est bon de faire le bilan de, mettons, cet automne, c'est quoi les priorités, les enfants, à l'église, mais ci, mais ça, et comment je peux sagement mettre des actions pour accomplir ce rêve-là. Mais c'est pas comme style, je le parachute, puis je tasse tout le monde, puis parce que votre mari, il sera pas très content si vous commencez. C'est là qu'il faut prendre un peu en considération, puis déjà si vous travaillez aussi, votre patron, ainsi de suite. Donc, il faut faire un plan, puis regarder quelles sont, de façon réaliste, les plages horaires qui me sont disponibles pour accomplir ce projet-là. Donc déjà, c'est déjà, je pense, c'est faire un bilan, de regarder à ce que j'ai, puis après ça, d'évaluer mon projet, combien de temps je dois y mettre.
De calculer la dépense.
De calcul, ben oui, celui qui sache, avant de bâtir une tour, ben, il calcule. Ce qui peut être bon aussi, c'est de consulter des gens, tu vois, qui ont déjà, par exemple, écrit un livre. Moi, quand j'ai commencé, j'ai demandé à des gens, comment toi tu fais pour écrire? Mettez votre exemple à vous, si c'est avec Sandra, comment tu fais pour chanter, développer ta voix? Ben, tu sais, ça peut être, mettons qu'il y a quelqu'une femme, elle écoute l'émission, elle dit, moi, c'est mon rêve. Ben, elle peut peut-être contacter quelqu'un, une chantre dans l'église, quelqu'un qui s'y connaît. Comment c'était écrire un livre? Ben, comment toi, tu t'y es pris? Est-ce que tu écris le syndrome de la page blanche? Est-ce que tu t'efforces? Est-ce que tu disciplines? Donc, ça peut être, je fais le bilan des plages qui sont de ce que j'ai à faire, le temps qu'il me reste. Puis après ça, je peux demander conseil à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ça, c'est aussi, ça nous aide à savoir comment accomplir quelque chose. Et surtout aujourd'hui, soit que tu demandes à quelqu'un qui s'y connaît, ça peut être des conseils comme ça, mais ça peut être aussi des formations. Il y a plein de formations maintenant dans le milieu chrétien qui nous aident à écrire ou à chanter ou à du leadership ou des choses comme ça. Donc, je vais chercher peut-être des outils qui vont m'aider à ne pas faire des erreurs. En fait, quelqu'un qui a un bon mentor ou un bon professeur, il va te dire, mais fais attention, si moi j'ai perdu du temps comme ça, je te propose ça. Donc ça, ça t'aide à faire ton plan. Donc, consulter des gens qui ont de l'expérience, ça nous aide aussi. Et après ça, ben, c'est de dire, je me fais un rétro-planning. J'ai un objectif, j'ai un échéancier, je veux arriver à telle date. Alors, comme moi, tu vois, moi, le livre, je veux qu'il sorte pour la grande conférence événementielle. Donc, j'ai pas eu le choix de produire quand même tout l'été. Il faut que ça soit sorti un mois avant pour le graphisme, pour la mise en page, ainsi de suite. Donc, tu pars de ton objectif à atteindre et tu fais un rétro-planning pour arriver, ben, en date d'aujourd'hui, jour 1. Quelles sont les étapes pour arriver à jour X, le jour où je dois livrer ou accomplir cette chose-là. Il y en a que c'est sur des années. C'est pour ça qu'il faut se fixer des trucs. Ça dépend de quel est ton objectif. C'est un changement de saison, c'est vaste. Hein? Ça peut être un changement de carrière, ça peut être un changement dans ta santé, ça peut être un changement dans toutes sortes de...
Et ça peut être un changement de pays aussi.
Oui.
Un déménagement, qu'est-ce que je fais en arrivant? Et tu vois, quelquefois tu réussis très bien et ces transitions là puis du coup ça part bien tout le reste et quelquefois bah si tu le rates un peu parce que quelquefois t'as manqué et la préparation avant tu t'es pas assez renseigné t'as pas assez préparé du coup t'arrives et t'es complètement pris au dépourvu t'arrives dans un pays bah, je savais pas que je pouvais pas travailler du coup je savais pas que j'avais pas le droit de travailler t'as pas le droit de travailler du coup bah tu vas pas avoir de rentrée financière et ça vient perturber tout ton plan. Et c'est là aussi où, bah, bon, peut-être vous dites, bah oui, bah là maintenant, Annabelle, c'est trop tard. Mais c'est à prendre en compte aussi dans tout ce qu'on vit mal quand on commence quelque chose, c'est de se le rappeler, de se prendre en note, qu'est-ce que j'ai manqué pour ne pas le manquer pour la prochaine fois. Et moi, je connais plusieurs personnes qui sont arrivées dans des pays, ils ne s'étaient pas renseignés sur des choses de l'administration, sur les droits, etc. Et ils se retrouvent dans des complications, des vraies complications qui ont de l'impact sur la scolarité des enfants, sur les finances, sur le logement, etc., qui mettent même en péril leur installation. Et en fait, il y a des choses que tu pouvais préparer en avance. Il y a des choses que c'était accessible dans la formation et qu'il fallait faire avant et que quand tu serais arrivé, ça aurait pas été un problème. Et ça, bah, c'est de se le dire, de ne pas répéter les choses. Je dois me préparer. Et quand tu arrives préparé dans une nouvelle saison, dans un projet, même s'il y a des imprévus, même s'il y a bien sûr, il y a tout le temps des choses que tu vas découvrir, en fait, tu n'es pas constamment en train de vivre des imprévus et ça fait que tu ne vas pas être totalement totalement déstabilisé. C'est comme, je sais pas moi, si tu fais ta rentrée à l'école, tu dois savoir est-ce que je suis bien inscrite à l'école, dans cette école, est-ce que c'est où, c'est quoi, enfin ça dépend dans quel niveau t'es, mais quel cours j'ai pris, est-ce que j'avais besoin d'avoir des manuels avant de rentrer, est-ce que je devais m'inscrire quelque part, est-ce que je dois faire partie de quelque chose, est-ce que je dois passer à un accueil, prendre un badge, etc. Et puis quelquefois dans notre vie on parlait de la procrastination, on s'est renseigné sur rien, on n'a rien fait, on arrive un petit peu la bouche en cœur et puis on peut après se dire attends, c'est de l'opposition.
Exact. Ouais, c'est Dieu, tu m'as abandonné. Ouais. T'étais pas.
Pourtant, tu m'avais parlé. C'est là que tu me voulais. C'est comme fallait te renseigner. Et puis, je reprends encore tout le temps cet exemple-là. Mais quand t'arrives dans un groupe de 100 personnes et que t'es le seul qui était pas au courant, tu te dis peut-être que c'est moi qui ai manqué une information. Parce que si les 99 autres ont réussi à trouver l'information et se retrouvent pas dans le même problème que moi, qu'ils ont tous leurs papiers, que leur dossier est prêt, qu'ils peuvent aller, qu'ils peuvent commencer les cours demain, mais que moi, en fait, il me manque la moitié de mes papiers, que je suis pas vraiment enregistrée, que finalement, je suis même pas sûre d'avoir une place dans mon cours, et que je suis la seule, franchement, je dois me dire, peut-être que j'ai manqué quelque chose. Et faut pas se décourager, mais à ce moment-là, faut pas non plus mettre le diable là où il est pas. Et se dire, c'est pas le combat qu'il faut choisir, c'est la repentance.
Ouais, mais, comme dire, le Seigneur va prendre soin de moi.
Oui.
Tu vois, moi, je vais vous dire,
l'improvisation.
Moi, je veux que ça soit fait pour le 24-25 octobre. L'éditeur, lui, ou l'imprimeur, il m'a dit, Stéphanie, si tu veux que ça soit imprimé, il faut que tu l'ailles exact. Dieu va prendre soin de moi. Non, il faut que j'écrive. Tu vois, c'est entre la foi, bien sûr, que Dieu, et ça veut pas dire que le projet est pas de Dieu.
Mais c'est la foi que tu puisses réussir à écrire dans ce temps-là.
Exact. Oui. La foi te convaincre, c'est-à-dire que j'ai ma part à faire, mais des fois, c'est pas si simple que ça. Il y a des détails qu'on veut pas. Moi, il y a des choses que je sais pas, on procrastine, mais des fois, c'est pas procrastiner, c'est comme, c'est procrastiner aussi. Il y a une expression qui dit eat the frog, manger ta grenouille. C'est-à-dire, toutes les choses qu'on repousse, des fois, ça, est-ce que faut que je sois inscrit? Faut que j'appelle à l'ambassade? Faut que j'appelle le gouvernement? Tout ça, je déteste.
Des tâches ingrates, là.
Déteste ça. Ou pour les impôts. Tu vois, je pense que t'es comme moi, là. Tu as appelé, Donc, moi, mon mari, qui est très, très, très structuré, il va me dire, Stéphanie, pour l'imprimeur, par exemple, faut que t'appelles la date. Mais je déteste ça. Donc, dans ma liste de choses, pourtant, mon projet, il est grand, là. C'est un livre. Il faut que j'appelle l'imprimeur.
Ça fait partie.
Donc, je peux, au lieu de me dire, OK, je repousse à la main, je mets en haut de ma liste la chose que je déteste faire. Comme ça, dans ma journée, c'est réglé, c'est coché. Ils disent en anglais, c'est manger ta grenouille, ça se traduit pas tellement bien, mais eat the frog, c'est-à-dire tout ce que...
T'aimes pas.
Toute la journée, tu te dis, il faut que j'appelle l'imprimeur. Faut que j'appelle l'imprimeur. En fait, tu vas le porter, puis bon. Alors, quand tu dis, c'est fait, j'ai appelé l'imprimeur, j'ai le résultat. Donc, c'est toutes ces choses-là. Dans la préparation, au lieu de repousser, je me fais une liste, puis souvent, je termine pas avec ce que j'ai pas le goût de faire. J'essaie de le régler tout de suite. Est-ce que c'est le fun? Non.
Non.
Bon. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Mais tu vois, il y a des choses comme ça, mais c'est quand même un bon truc dans... Mais je sais que ça a l'air simple, mais... moi, je dis une liste, vous m'avez vu écrire avec un crayon, mais ça peut être une liste comme ça, peu importe. Mm-hmm. Mais je pense que d'un changement de saison, ça prend quand même... On dit se planifier, mais ça prend des étapes, mais il faut les écrire. C'est pas juste dans notre esprit.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, même dans la prière, dans le sens que dans la prière, moi, toutes ces étapes-là, tu sais, on parle des choses à faire, mais ça naît dans la prière. Ça veut pas dire que parce qu'on les fait, qu'on n'a pas prié. Donc, je vais commencer ma journée, je vais prier. Le Seigneur va me donner, OK, j'ai comme cette idée-là. Mais pendant que les idées me viennent, je les écris. Donc, c'est plus efficace et j'ai un plan écrit. Mm-hmm. Parce que quand on a des idées, des fois, Dieu même nous donne une révélation, une création. Je vais créer ça, une idée de chapitre, un ça. Ça part.
Ah, oui.
Donc, se planifier, c'est aussi écrire avec un crayon, du papier, c'est consulter, c'est faire des objectifs. Ça a l'air lourd. Mais ça vient peut-être quand j'ai fait mon doctorat, ma thèse, d'écrire une thèse, tu sais. Ça prenait toutes ces étapes-là pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bien servi dans le ministère. Puis, comme je dis, j'avais eu une directrice de thèse, qu'elle était vraiment stricte, tu vois. Donc, mais ça, je pense que ça... Des fois, ça a l'air lourd, tout ce que je dis, mais c'est tellement plus efficace quand c'est clair, quand t'as tes... En fait, tu peux relâcher. Mmh. Parce que tu le sais très bien qu'il y a un deadline. Mais quand t'appelles pas pour savoir c'est quand, ça te hante à l'intérieur. Mmh. Tu comprends? Mmh. C'est là qu'il faut... Je sais pas.
Ouais. Mais tu vois, moi, j'aime bien la citation qui dit « Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer.
Ouais. »
C'est... C'est comme quand tu t'en
vas... Redis-le.
Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer. Oh. Si on prend pas le temps de bien planifier les choses. Et moi, je le vois des fois comme avant d'aller escalader une montagne. Écoute, tu vas pas escalader
Est-ce
une montagne.
Est-ce que tu escalades? Moi, je pensais que t'allais dire avant que j'aille escalader.
Non, mais oui, mais avant d'y aller, tu le fais oui, pas comme ça. Tu sais, je pense aux gens qui vont faire, par exemple, le Mont Everest. Il y a toute une préparation. Ça te prend du matériel, ça te prend des choses. Et en fait, ce que tu dis, c'est un petit peu ça. C'est toute la préparation qui va me permettre ensuite de pouvoir aller faire mes objectifs. Donc, par exemple, prévoir qu'il va falloir que si j'écrive les objectifs à atteindre, que je fasse mon rétro-planning. Mais si t'as même pas de planning, si t'as pas d'agenda, si t'as pas de truc, tout ce genre de matériel et que tu te prépares pas pour la course que tu vas devoir faire, ben, en fait, déjà, tu pars avec une épine dans le pied parce que, ben, en fait, comment tu veux respecter des dates si tu sais jamais quel jour on est? Donc, c'est toutes sortes de petites préparations comme ça pour ensuite, OK, allez, ben, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, gigot. Ben, t'as déjà au moins mis les choses en place dans ta vie, puis tu parlais au début la gestion des priorités, puis tu vois, quand on parlait du thème, c'est la première chose à laquelle je pensais, de se dire, bah, c'est quoi les priorités dans ma vie? Donc, t'as des choses dans ta vie qui sont prioritaires, que t'as pas le choix de bouger, mais t'as des choses dans ta vie, bah, des fois, en fait, il va falloir que...
Tu fasses la place.
Bah, c'est ça. Pour dire oui à quelque chose, bah, il va falloir dire non à autre chose. Donc, t'avais prévu ce soir, cet après-midi, là, j'ai un bloc, je vais pouvoir fermer la porte de ma chambre, de mon bureau, je vais écrire, je vais me travailler. Ah, ben bah, là, d'un coup, une notification, ah, ben bah, là, on s'en va faire une après-midi avec les filles, on s'en va magasiner pour telle affaire. Bah, elle est où ta priorité? Et tu sais, de savoir rester, non, mes priorités, c'est mon objectif à atteindre, puis tant pis. Il y a des choses, il va falloir que j'apprenne à dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à mon objectif, oui à ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et des fois, ça, c'est pas facile, le non, et d'être sécure dans son non, puis... Oui, il y a peut-être un service que tu voulais faire, un truc qui t'intéressait, un concert que tu voulais aller voir, une activité que tu voulais faire, un repas, on t'a invité à manger. Ben, des fois, ça va être de dire non, parce que là, t'as choisi ton objectif, t'as choisi ton projet, et c'est des petites victoires aussi qui vont te permettre de pouvoir avancer.
Ça, c'est impossible de tout faire. Mm. Je veux dire, si on se dit, ah bah oui, moi, je me rends disponible pour tout et pour tout le monde, bah, si tu fais ça, en fait, c'est certain que tu pourras pas accomplir les grands oui de ta vie, parce que tu dis tellement de petits oui partout. C'est comme de l'argent, hein. C'est des petites dépenses partout. Bah, au fur et à mesure, tu cumules. Bah, ça fait une grosse dépense. Mmh. Et puis, bah, en étant des gestionnaires sages et intelligents, bah, si t'as dit oui pour une grosse dépense, bah, tu sais qu'en fait, ton budget te le permet pas, ton budget temps te le permet pas, ton budget énergie te le permet pas, ton budget relationnel te le permet pas. Et quelquefois, c'est parce qu'on est de bonne volonté, on a envie d'être des gens gentils, on veut dire oui à tout le monde, mais quelquefois, c'est aussi parce que bah, c'est des échappatoires, c'est des distractions.
La procrastination aussi.
Parce
hein,
que, bah,
c'est plus intéressant, des fois.
Ouais, c'est pas intéressant. Ah, ouais. Mais oh, je récupérais
ça. C'est moins pénible.
Et ça peut arriver. Et de temps en temps, je veux dire, faut pas être rigide non plus. Faut savoir sortir de son programme, mais quand c'est en fait ta vie n'est faite que d'exception, bah c'est certain qu'au final ton résultat va être très petit, ton résultat va être très menu. L'exception doit rester une exception, mais si l'exception de dire oui pour un café qui était pas prévu, oui pour une sortie qui était pas prévue, ça devient l'habitude, bah on aura le résultat de cette habitude là en fait.
Et dans les fameuses listes à faire, je l'enseigne aussi, c'est il y a aussi faire justement le bilan de ton temps, c'est-à-dire aller avec tes priorités et déjà, est-ce qu'il y a des endroits où ça, franchement, je peux couper? Oui. C'est-à-dire, on dit Netflix ou peu importe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de loisirs. Si c'est juste allumer des bougies, il y a un problème.
Mais tu peux le planifier, ça aussi,
Il y a des choses qu'il faut te dire. Est-ce qu'il y a des relations qu'on sait qui sont aussi un peu envahissantes? Tu vois? Donc, si je veux atteindre certains objectifs, ben, je peux pas. Il faut que je peux faire le bilan de mes activités puis de dire ben, ça... pour une saison, je vais faire attention. Mais par contre, quand on parle de priorité puis de bien gérer notre temps, moi, quand j'ai fait mon doctorat, le Seigneur m'avait dit, par contre, il faut... l'Église, le Seigneur, bien sûr, ma relation avec lui, mais l'Église était une de mes priorités. Et souvent, un des pièges, c'est que quand on a un grand projet, ah ben là, je n'irai pas à l'église dimanche. Ou bien, ah, je t'implique. Comme moi, quand j'ai, tout le long que j'ai fait mon doctorat, je vais vous surprendre, j'enseignais à l'école du dimanche, tu vois. Oui, et j'ai une petite classe dans l'église de Rimouski. Ben, après ça, j'étais à Rimouski, mais après ça, quand je suis partie à Montréal, à l'église ben, qui était sans frontières à l'époque, qui s'appelait, c'est sans frontières aujourd'hui, l'église. Oui. Bon, voilà, il y avait un autre nom à l'époque. Et j'étudiais à l'université et je gardais les enfants le dimanche soir dans les classes... Et je faisais l'école du dimanche dans cette église-là, oui. Et c'est comme si, dans mes priorités, des fois, le projet, il devient tellement comme la priorité que soit que c'est Dieu, l'église, tes fonctions à l'église, ta relation avec lui, parce que t'es motivé par ton projet. Mais la fondation, c'est que ça demeure Dieu, ton mari, ta famille, et là, tu ajoutes ton projet. Parce que quand tu enlèves toutes tes priorités, ben c'est que, et je crois que Dieu m'a honoré parce que je l'ai mis en premier dans ça. Et je dis pas que j'étais obligée à l'église à tous les dimanches, mais dans ce sens que je vais pas à l'église parce qu'il faut que je fasse ci ou je vais pas à l'église. Donc, l'église était une priorité. Et ça, je crois que ça plaît à Dieu. Ça ouvre le ciel aussi à nous. Parce que on parle du temps, c'est important, mais des fois, mais souvent, quand on le priorise, Dieu, puis que nos priorités sont à la bonne place, Dieu multiplie le temps. Il y a des choses que tu avais planifiées, que ça peut prendre 3 jours, mais Dieu te fait grâce, puis tu peux le faire en une journée. Tu vois, c'est cette notion du temps, quand c'est bien géré. Bien sûr que la gestion du temps dans la réalisation de projets, c'est une des priorités.
Mais même là, tu sais, parce que je dis l'église et puis je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais tu sais, des fois, ça peut déborder de, finalement, le mardi soir, il y a la réunion de prière, le mercredi soir, il y a l'étude biblique, le jeudi.
Oui,
c'est... Fait que tu sais, des fois, pendant une saison, ça peut changer, mais par contre, il y a des choses qui sont... ça bouge pas. Le dimanche matin, mon implication, mon service, voilà.
Matin, oui.
Puis, même chose dans la famille, tu vois, je sais que quand on se fréquentait, puis après, ça a duré... Tout le long de notre mariage avec Matt, c'était lui. Il était pasteur, il était impliqué dans la jeunesse. Il développait son entreprise, des trucs comme ça. Mais tu sais, pour réussir à se voir là, c'était devenu compliqué. Bah tu vois, dans notre agenda, c'était écrit date, et puis c'était ça bouge pas. Et dès qu'on avait quelque chose, on nous demandait quoi que ce soit, c'était non. Le mercredi soir, c'est écrit dans notre agenda, c'est notre rendez-vous. Le samedi matin, c'est notre rendez-vous. Et on avait plusieurs petits trucs comme ça dans notre agenda. Fait que, tu sais, il y a des choses qui doivent pas bouger, mais tu sais, écris le soir. Il faut qu'on soit intentionnel. Et pareil, donc l'église le dimanche matin, ta famille, tes enfants, il y a des choses. On peut pas tout couper, mais tu vois, encore une fois, quand on regarde ton agenda, on doit voir c'est quoi tes priorités. Donc c'est là on doit voir le temps que tu dois passer dans ton projet, c'est là qu'on doit voir les temps que tu passes avec ta famille, les temps que tu passes avec Dieu, dans l'église, dans tes implications. Mais ça doit se voir, parce que si on n'est pas intentionnel, là au soir j'ai pas le temps, et puis finalement en fait tu te rends compte que ça fait une semaine que t'as pas parlé avec ton mari d'autres choses que qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu sais.
Mais ça c'est important, ça se discute en famille, de dire, tu sais, comme moi, le premier livre que j'ai écrit, Précieuse comme un diamant, bon, je travaillais comme pasteur à l'église, puis j'avais le projet d'écrire un livre. Et là, on s'est assis en famille, on a regardé, est-ce que c'est possible de travailler? Lundi, nous, on était congé. Donc, quand j'ai travaillé à l'église, j'étais pas rémunérée pour écrire un livre. Tu sais, c'était sur mon temps personnel. Donc, la journée de congé, c'était le lundi. Donc, on a discuté, mon mari, avec mes enfants. Mes enfants étaient en bas âge. Et finalement, on dit, maman, ça va être une certaine saison. Mais ça veut pas dire que tu négliges tes priorités, mais tout le monde était au courant qu'il y avait du temps loué pour l'écriture. Bon. Et quand c'est arrivé la sortie du livre, je me souviens, c'est une des premières conférences qu'on a faites avec Christine Ken, puis j'avais ma table de livres, et puis c'était comme le lancement de mon livre. Et puis c'était Madame Monique, et comme si c'était hier, Madame Monique Lépine, qui est une amie à moi, qui était à la table de livres, puis avec tout ce qu'elle a vécu avec ses enfants, on dirait, bon, peut-être beaucoup connaissent son témoignage. Et j'avais mon petit Jérémy qui était là, écoute, peut-être qu'il y avait... entre 6 et 8 ans, là, dans ma mémoire. Et c'est elle qui m'a raconté par la suite, quand les gens venaient acheter le livre, mon petit bonhomme, mon petit Jérémy tout blanc, il disait, ça, c'est le livre que ma mère a écrit. Il était comme fier, parce que il avait parti, bien sûr qu'il y avait eu un coup familial, mais il aurait pu dire, hey, ça, là, c'est le livre que ma mère a écrit, puis j'étais fatiguée. Tu vois, et je me disais, quand elle me racontait ça, elle était fière, parce que c'était comme une maman spirituelle, elle m'avait dit, ben, c'est beau parce que il y a des choses qui ont fallu s'ajouter. Mais cette fois-là, c'était une bonne fois que le projet, tout le monde a coopéré, tout le monde savait qu'il y avait comme un prêt à payer, mais ils ont pas payé, t'as pas sacrifié ta famille ou des, et ça, c'est important parce que quand on est ambitieux puis qu'on veut, puis des fois c'est pour une bonne cause, c'est pour Dieu, oui. Puis là on part, ben, des fois on arrive, on n'a plus de vie de prière, plus personne nous connaît à l'église, notre famille peut plus nous supporter, puis tu comprends, je ridiculise, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes en discussion qui sont motivées pour un nouveau projet, mais tout part en vrille parce que sont juste focus là-dessus. Wow, c'est une fondation, puis t'ajoutes un nouveau projet.
Ben ça, c'est un point important, c'est de communiquer.
Oui.
De savoir avec qui tu disais, je dois m'entourer, un mentor, quelqu'un qui l'a déjà fait, un conseiller, mais aussi dans mon entourage, mon mari, mes enfants, ou les personnes qui vont être impactées, en fait, de communiquer et de pas... Parce que quelquefois, quand tu as un nouveau projet, tu sens le besoin pressant d'y répondre, et puis tu as l'impression que c'est une question, et c'est vrai, une question d'obéissance envers le Seigneur. Donc là, tu te dis, il y a pas le choix, j'y vais, go. Mais en fait, dans l'obéissance, il y a une part de sagesse, et c'est pas quelque chose que Dieu nous reproche. Tu sais, ça fait partie, en fait, on doit apprendre, ça fait l'obéissance, il y a de la sagesse dedans. J'ai dit oui à Dieu, un oui qui venait du cœur, un oui où je suis prêt à tout changer, je suis prêt à tout abandonner, mais maintenant, il faut que je le communique, en fait. Parce que si j'arrive avec un nouveau projet qui impacte toute la famille et que j'en ai pas parlé, que tout le monde est juste en train de subir mon projet et que tout le monde vit à la merci de ce projet, ouais, c'est ça.
Pression.
C'est qu'en fait, déjà, ça va pas être des alliés. Et en plus, c'est un manque de sagesse, et puis ça peut être irrespectueux et ça peut faire tellement de mal aux relations. Donc après avoir réussi à accomplir ton projet, t'es retourné aux études, super, t'as eu ton diplôme, mais ta vie de famille, c'est une catastrophe. Et pas parce que tu vois, beaucoup de femmes vont dire, mais j'ai tellement souffert en retournant aux études, c'était tellement dur, j'ai pas senti le support de ma famille. Alors certainement il y avait pas de support, hein.
Oui.
Mais certaines, c'est parce que à la base, en fait, il y a pas eu cette communication, et c'est que moi, Dieu m'a dit que je retourne aux études. Tu sais, il y a pas de communication, il y a pas d'échange, il y a pas de est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses, et voilà, donc moi je
t'es
retourne aux études
avec
donc
moi.
Voilà, maintenant les choses vont changer, on coupe les activités des enfants, et du coup tout le monde le vit un peu comme une punition. Et puis le fait de s'asseoir, peut-être que on arriverait aux mêmes conclusions, mais d'un commun accord. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que nous, on a le feu pour un nouveau projet, mais les gens, ils n'ont pas le feu autour de nous. Non. Ils répondent pas à ce projet-là, mais ils vont participer d'une façon ou d'une autre. Alors autant, par amour et par respect, les inclure et puis les entendre, en fait. Et peut-être que dans ce qu'ils vont nous dire, il y a aussi de la sagesse, parce que nous, on est tout feu, tout flamme, et il y a peut-être de la sagesse dans ce que va dire un enfant, une amie, un mari, un pasteur, un aîné, un frère, une sœur. Et quelquefois, on veut même pas en parler de certains projets parce qu'on n'a pas envie de, on n'a pas envie qu'on nous dise quelque chose. On n'a pas envie qu'on nous freine, on n'a pas envie que ou qu'on nous donne des comme un cadre et tout ça. On préfère faire notre truc tout seul. Mais au final, là, ça risque aussi de créer comme quelquefois même l'entourage peut se sentir trahi. T'as fait ça, tu nous en as pas parlé. Pourquoi t'en as pas parlé? Si tu disais, je prépare une grande tournée, puis t'en parles à personne. Et non, mais c'est parce que je voulais pas vous inquiéter. Ah, c'est parce que je savais que vous alliez me dire que c'était un trop gros projet, etc. Mais en fait, t'abîmes les relations avec les gens. Donc c'est de prendre en compte l'entourage, de se dire ils vont entrer avec moi, donc c'est important. Oui. Et puis aussi de me dire je veux pas m'isoler parce que j'ai pas envie d'être dérangée.
Ouais. Puis ton entourage, c'est quand même eux qui, parce que y a pas de projet sans avoir d'échec ou de, franchement, je connais peu de gens qui ont fait ça en ligne droite et tout était merveilleux. Mais c'est quand même ton entourage qui va te relever, qui va t'encourager, qui, tu sais, comme le livre ou peu importe le ministère ou quand, on est deux, mon mari puis moi, c'est pas lui qui l'écrit, mais il m'encourage ou moi je l'encourage dans ses projets. Puis de cette notion de partager en famille, c'était quand vous regardez le proverbe 31. Cette femme-là, elle acquiert un champ, elle fait ça. Pour moi, c'est une femme qui est remplie de projets. Elle est mariée, elle a des enfants. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à la fin, ça dit que son mari la loue aux portes et que ses enfants lui donnent des louanges. Soit elle fait tout ça, mais c'est pas sa famille, on a envie de dire. Notre mère est jamais là. Tu comprends, son caractère est insupportable pendant que c'est sûr que Moi, des fois, 24 heures avant de partir pour une mission, mon caractère peut être un peu... Je suis pas la femme du proverbe 31. Tu vois. Je dis pas qu'on est parfaitement, parce que quand on accomplit des projets, c'est sûr qu'il y a une pression. Ouais. On pourrait parler... J'ai pas parlé du combat. Des fois, on met les choses à l'inverse. On dit, ah, j'ai un combat parce que je me suis pas préparée. Mais des fois, effectivement, je me suis préparée. J'avance pour Dieu et j'ai un combat. Donc, c'est normal qu'il peut arriver des fois que tu as un caractère plus difficile. Mais il faut pas que ça devienne la norme. Ouais. Tu vois, c'est, les gens, ils comprennent, comme mon mari, il sait que 24 heures avant de partir, des fois, c'est pas le temps de me demander des factures ou des affaires qui m'énervent, tu vois. Et, mais si c'est toujours comme ça parce que je suis dans un projet, ben là, il va dire, c'est pas agréable. Oui. Tu vois, c'est là qu'il va dire, de faire le bilan aussi à travers ça. Puis c'est la beauté, je pense, d'avancer en âge, c'est que avant, on est tout ambitieux, qu'on est plus jeune, on veut accomplir. Mais à la fin, c'est qu'est-ce que je vais laisser? Si j'ai laissé des relations qui sont pourries, si mes enfants, ils ont trouvé que c'était moche pendant que... Et là, tu vois, mon fils écoute cette émission-là, alors j'espère qu'il va dire que c'était correct. Mais tu vois, c'est, le proverbe 31, ça me motivait de voir cette femme-là si active, mais en fait, elle avait de bonnes paroles pour sa maison. Elle voyait ce qui se passe dans sa maison. Elle n'a pas négligé sa maison, sa relation avec Dieu pour sa nouvelle saison. Ou ses nouveaux projets, je devrais dire, dans son cas, elle.
Et aussi, quand tu commences quelque chose, un nouveau projet, ou encore une fois, t'entres dans une nouvelle saison, c'est d'accepter que tu commences, d'accepter d'être débutante. Et quelquefois, on peut être avancé dans un autre domaine, on est avancé dans la carrière, on est peut-être avancé aussi au niveau de notre couple, et puis là, ça peut être la maternité, ou ça peut être, on rentre dans le ministère, et en fait, on commence. Et dans plusieurs domaines de ta vie, t'es déjà comme dans un niveau avancé, et là, tu redeviens une débutante. Et quelquefois, quand on commence, on arrive en se disant, en fait, non, mais moi, à cause de mon âge, à cause de mon expérience dans les autres domaines, et c'est vrai, c'est une richesse, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on sait déjà tout. Et c'est d'être dans cette position d'humilité. En fait, je commence, donc j'ai beaucoup à apprendre. Je suis une débutante, et peu importe mon âge, et on reprend ton exemple, tu disais par rapport au sport, à ta salle de sport, où tu as commencé et tu avais plus de 50 ans, tu es débutante. T'arrives, et puis peut-être qu'il y a des filles plus jeunes, mais tu sais, ça fait 10 ans qu'elles connaissent la salle de sport, qu'elles vont là-bas, elles connaissent les programmes, et puis toi t'es là, ok, on va où, qu'est-ce qu'on fait, ça se passe comment les programmes, mais c'est d'accepter de passer par là, et quelquefois c'est difficile de s'humilier, de se dire ah ouais, faut tout apprendre, faut tout commencer. Là, je connais pas, et puis il faut que je demande conseil, faut que je me fasse aider. J'ai l'impression de faire des petites choses, alors que souvent c'est plus difficile, je trouve quasiment, quand dans d'autres domaines de ta vie, t'es beaucoup plus avancé parce que t'as plus cette habitude. T'es là, c'est trop bizarre. Et c'est pas que toute ta vie reprend à zéro, mais dans ce domaine-là, tu reprends à zéro. Et puis, faut avoir cette capacité à être humble, à être enseignable, à apprendre, et puis à accepter les petits progrès, les petits débuts, les petits commencements, et puis de voir les autres autour de nous, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à faire des trucs aussi fous? Et c'est de se dire, et tu vois, même des femmes, je parlais du retour aux études, ça c'est quelque chose, tu vois, que les femmes qui retournent aux études, 40, 50 ans, elles peuvent vivre, tu sais que tu vas devoir réapprendre, mais quand tu réapprends avec des filles qui ont l'âge de tes enfants, et que tu vois, tu dois travailler avec elles, et que tu dois travailler sur un projet, et que tu sais, elles ont même des attitudes d'enfants dans leur comportement, mais qu'au niveau des études, peut-être qu'elles comprennent mieux que toi, peut-être qu'elles ont... faut un peu d'humilité pour te dire ok, on va faire partie du groupe, et je vais pas te parler comme une maman, je vais pas faire ma maman, je vais être une étudiante, je vais être une collègue, et puis de réussir à retrouver sa place, c'est pas tout le temps évident ça dans les nouvelles saisons.
Écoute, une confession à vous faire, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça, quand je suis entrée dans le ministère en 2000, moi j'avais, comme je disais, j'étais dans le labo en recherche, dirigeais toute l'équipe, et quand je suis arrivée à l'église, c'était tout nouveau pour moi. Tu sais, je faisais mes cours publics en même temps, dirigeais des équipes. J'avais pas d'expérience de ministère, mais j'avais de l'expérience au niveau des labs, de la recherche, de l'éducation.
T'as pris tout le monde pour des petits rats de laboratoire.
C'est pas ma gloire, là, je vous dis. Quand je suis arrivée, moi, j'avais l'impression que je savais. Tu vois, j'avais accompli quand même. Et là, c'était une nouvelle saison. Et là, moi, je dirigeais un peu comme ça, puis là, avec mes règles à moi de. Et mon mari m'a dit, écoute Stéphanie, si tu changes
pas, là.
Il m'a dit vraiment, ah ouais? Si tu changes pas, il va falloir qu'on révise peut-être ta place à l'église, tu
vois? Ah oui, hein?
À ce point-là. Parce que c'était comme, moi je savais.
C'est comme ça que tu as été mise à l'école aussi. ta directrice de thèse qui te disait que tu étais très stricte.
Et en fait, ça a été vraiment une clé pour moi. Puis là, il y avait un jeûne et prière, c'était durant l'hiver, et eux sont allés prier. Moi, je suis allée le jour, l'après-midi, puis je suis allée faire manger mes enfants, puis je devais retourner le soir. Puis il y a eu une tempête de neige. Et donc, je suis restée à la maison. Et là, je savais qu'il fallait que je prie pour jeûne, que jeûne pour que le Seigneur... je sais pourquoi ça marche pas. Tu vois, des fois, on a l'impression que j'ai de l'opposition, quoi. Et le Seigneur, il m'avait, en prière, une grande révélation, m'avait dit, « Toi, parce que tu as laissé beaucoup... » dans ta carrière, tu penses que au sens, c'est une illustration, que tu dois voyager en première classe, tu sais quoi faire, toi, tu es en business class. Mais il m'a dit, juste me servir, juste prendre l'avion, c'est un privilège. Mm. Donc, retourne classe éco et fais ce que tu as à faire. Et c'est comme, ça a cassé ma vision de moi, je sais.
Parce que t'arrivais un petit peu genre, j'ai tellement tout laissé que je mérite.
Tu comprends.
Là, je suis déjà là.
Ça, c'est un des pièges que tu me fais pas dire. Dans une nouvelle saison que t'as accomplie, puis que peut-être ça parle à quelqu'un, ou que là, tu recommences à zéro, tu sais, mais tu sais pas tout. Mm-hmm. Et l'humilité précède la gloire. Mm-hmm. Et ça a changé ma vie. Les gens, ils vont me dire, toi, Stéphanie, tu es simple. Mais le Seigneur a...
Tu ne partais pas comme ça.
Non. Et à chaque fois d'arriver, de dire, si je commence à un endroit, ben c'est un privilège. Donc, je repars à zéro.
Mais quand ton mari te l'a dit...
Ah, j'ai trouvé ça difficile. Mais il était sérieux. Il m'avait dit presque... Bon, je vous le dis entre vous et moi.
Ben oui.
Et lui, les femmes qui me regardent. Mais style, il va falloir peut-être que tu changes d'idée, que tu ne travailles pas à l'église.
Oui.
Et là, mon attitude a été complètement changée. Et là, je suis rebootée à zéro, mais avec un cœur d'action de grâce. Mm-hmm. Je suis là pour apprendre. J'ai appris. Et ça m'a servi, je pense. Ça m'a fait penser à ça, mm-hmm. de dire, je ne sais pas tout. C'est une nouvelle saison. Je marche sur le chemin de l'humilité. Je suis avec des petites jeunes, peut-être qu'assez plus que moi, mais je vais apprendre. Et c'est comme ça que Dieu nous fait grâce dans cette nouvelle saison. Mais l'humilité, ça...
Bon, quel brisement a bien fonctionné.
Non, mais ça, c'est un exemple. Écoute, ça m'avait tellement frappé.
Bon exemple.
Toi, tu penses que tu mérites, puis des fois, quand on a accompli, on pense qu'on mérite, mais avec Dieu, c'est juste le servir. C'est un privilège et avoir le bonheur d'être utilisé de sa part. Donc, soyons humbles. On ne sait pas tout dans les nouvelles saisons.
Donc, bien se préparer.
Bien communiquer.
Bien communiquer, ouais. Bien s'entourer. Accepter l'humilité aussi et de pouvoir recommencer à apprendre. Voilà quelques clés. Alors, c'est sûr qu'il y a autre chose. Et puis, encore une fois, nous, on veut vous encourager à aller vous-même dans la prière, à aller vous-même demander au Seigneur, mais moi, de quoi est-ce que j'ai besoin dans cette nouvelle saison? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir réussir, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir atteindre mon objectif. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de spécifique et de précis à vous dire. Et je crois que tout ce qu'on a dit, c'est très bon, c'est excellent, et que ça peut pas vous amener à l'échec. Mais maintenant, c'est important aussi que vous puissiez recevoir des instructions personnelles pour vous, parce que Dieu est un Dieu personnel, un Dieu de relation. Il veut vous parler, il veut vous communiquer, et pas... Il y a des grandes ligne qui va communiquer, mais je crois qu'il a aussi envie de vous communiquer des paroles qui, quelquefois, peuvent paraître très simples, mais qui, au quotidien, nous nourrissent, qui, au quotidien, nous font du bien. C'est notre pain quotidien. Puis, quelquefois aussi, on peut s'essouffler et être fatigué. Et en fait, la seule chose dont on a besoin, c'est juste une parole du Seigneur, un simple mot. Continue. T'es sur la bonne voie. C'est bien. go, vas-y. Mais quand Dieu nous le dit, bah en fait, on est reparti et qu'à la fois on cherche notre souffle ailleurs, dans la reconnaissance humaine, dans l'approbation, dans tout ça, dans un résultat tangible, une augmentation, une promotion. Mais bah en fait, la seule chose dont tu as besoin aujourd'hui, bah c'est d'entendre cette parole d'approbation qui vient directement du Seigneur. Alors nous, aujourd'hui, on t'encourage, va directement à lui, va lui parler et je suis sûre qu'il a quelque chose à te dire. Alors je crois qu'après cette semaine, on est programmé pour la réussite, le succès, atteindre nos objectifs, arrêter d'être paresseuse, renoncer à la procrastination, casser les mauvaises habitudes, en fait, décoller.
Mais le plus important, c'est ce n'est pas la destination, c'est la façon de s'y rendre à travers. Tout ça, c'est des clés et c'est important de rester sage, de respecter, d'aimer les gens autour de nous et surtout d'aimer Dieu, de garder Dieu comme priorité à travers tout ça.
Amen.
Et le Seigneur va vous donner le succès, c'est certain.
Alors,
mais continuez à avancer.
C'est un beau mot de la fin.
Continuez.
Écoute, on va laisser ça comme ça. Allez, un grand merci à vous tous aussi, à tous les partenaires. Merci parce que vous êtes persévérants.
Oui.
Vous êtes déterminés. Certains, vous êtes fixés un objectif. Moi, je veux être partenaire. Certains, c'est quelque chose que vous avez préparé depuis plusieurs mois. Vous dites, moi, l'année prochaine, j'avais décidé que l'année prochaine, je serais partenaire. Et voilà, aujourd'hui, je deviens partenaire. Je me suis préparée. Et Dieu honore cette foi, Dieu honore cet engagement, Dieu honore aussi cette préparation. Donc un grand, grand merci à vous tous. Et puis vous pouvez aller sur emcitv.com/don pour avoir toutes les informations. Si vous aussi, vous voulez être partenaire, si vous voulez commencer pour vous dire comment ça se passe, est-ce que je pourrais réussir à donner, est-ce que vous pouvez donner le montant de votre choix, vous pouvez le faire de façon ponctuelle ou de façon mensuelle. Écoutez ce que le Seigneur vous dit, ce qu'il vous mettra à cœur et que vous puissiez faire ce qu'il vous dira. Et en tout cas, un grand, grand merci pour votre générosité. Et puis, écoutez, on se laisse et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.